France Musique. Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Inès, Léonard Duzy.
Bonjour Saskia.
Bienvenue sur France Musique. Je pense que cet opus 35 vous fait plaisir.
Oui,
je me trompe.
Tout est très bien ce matin.
Vous avez fait du violon, toute jeune.
Oui, toute jeune, oui, avec beaucoup d'humilité.
Mais c'est quelque chose que vous écoutez régulièrement, ce concerto?
Oui, absolument. L'opus 35 de Tchaïkovski, c'est quelque chose que j'écoute religieusement tous les jours, vraiment.
Tous les jours?
C'est pas une façon de parler, oui.
C'est vrai? Qu'est-ce qu'il vous apporte?
Je crois qu'il m'aide à rêver. À me sentir forte. J'aime beaucoup aussi concerto pour de violon de Bach, par exemple, qui m'a beaucoup porté sur le plan poétique. J'aime beaucoup écrire de la poésie. Mais Tchaïkovski, c'est de la force, je crois, et il m'autorise à rêver.
En tout cas, ce goût pour la beauté vous a construit, Inès Léonard Duzy. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes une femme d'abord, bien évidemment, mais vous êtes PDG de l'ONG Digital for the Planet, dont on va parler ce matin. C'est pour ça que je vous ai invité sur France Musique pour évoquer plusieurs points, la pollution numérique, l'écologie numérique. Vous allez nous expliquer tout cela. Peut-être tout d'abord nous parler de cette ONG. Quelles sont ses missions?
Alors, Digital for the Planet est créé depuis 4 ans maintenant. On est présent sur 3 continents et son objet, c'est d'accompagner l'acculturation à l'écologie numérique. L'écologie numérique, en quelques mots, c'est l'étude des interrelations entre la machine, l'environnement et l'humain. Et comprendre comment ces impacts parfois peuvent être délétères, à la fois sur l'humain, la planète, mais aussi la société, et répondre avec des solutions. Et ce qu'on fait, c'est qu'on adresse à la fois les citoyens, de différentes manières évidemment, les entreprises et les gouvernements, aussi bien sur des changements de mentalité pour les entreprises, l'élaboration de lois pour les gouvernements, et puis de l'information, de l'éducation, de la formation pour les citoyens de 7 à 77 ans.
C'est vrai que en 2018, vous aviez réalisé cette étude avec votre ONG, et vous nous disiez 3 Français sur 4 ignorent ce qu'est la pollution numérique. C'est vrai que c'est quelque chose de qu'on ne voit pas, peut-être, et dont on a peut-être moins conscience que quand on jette un papier dans la rue.
Vous le dites très bien. En fait, le cerveau humain n'est pas câblé pour ressentir des dangers que ses sens ne peuvent pas percevoir. Donc, en effet, comme c'est invisible, ça n'a pas d'odeur ni même d'impact concret. On a du mal à se figurer que le numérique puisse polluer. Donc c'est quelque chose, il y a encore 3-4 ans en fait, hein, même il y a 4 ans quand on est arrivé, c'était un sujet qui existait déjà, que des experts traitaient, notamment en France, on a vraiment ce côté très pionnier. Mais ça restait dans des entre-soi d'experts, dans des entre-soi très ingénériques. Et donc c'est vrai qu'il a fallu démocratiser ce savoir-là.
Et effectivement, pour donner une idée à nos éditeurs, chaque année, selon l'ADEME, les allées et venues sur Internet d'une seule personne émettent autant d'équivalent carbone que 14 000 km parcourus en voiture. Ce sont des chiffres extrêmement impressionnants.
Ce sont des chiffres qui vont de pair avec la frénésie numérique qui est la nôtre aujourd'hui. Tout se fait sur Internet et je ne l'apprendrai à personne. Mais au-delà de nos usages quotidiens de divertissement, des services, les droits fondamentaux aussi ne sont accessibles que sur Internet. Aujourd'hui, l'emploi, la recherche d'emploi se fait quasi exclusivement que sur Internet. La demande du RSA, la demande des allocations famille, des allocations retraite, tout ça, il faut avoir un Internet chez soi, sinon on n'en bénéficie plus. D'ailleurs, ça pose un sujet sur le plan sociétal que je traite dans mon livre d'ailleurs. Donc oui, évidemment, ces chiffres sont impressionnants, mais en fait, ils sont le reflet effrayant de nos comportements numériques.
Et ces chiffres, on peut les retrouver donc dans ce premier livre qui paraît dans quelques jours aux éditions de l'Observatoire, Réparer le futur, comment évoluer avec le numérique tout en étant respectueux du vivant, c'est son titre. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça sur France Musique, évidemment? Eh bien parce que j'avais envie de m'intéresser ce matin à toutes ces captations de concerts, d'opéras, de spectacles desquels on se nourrit finalement depuis quelques mois avec ces confinements successifs, avec la fermeture des salles de concert. Est-ce qu'on a une idée, Inès Léonard-Duzy, de l'impact justement en termes de pollution numérique de ces diffusions?
On a de nombreuses estimations qui émanent de plein d'institutions différentes. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est au-delà des chiffres, il faut comprendre comment ça fonctionne. Pendant le premier confinement, où on a eu une explosion de l'utilisation d'Internet, notamment avec les réunions Zoom, le télétravail, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plus ou moins une espèce d'équilibre qui s'était fait parce qu'on avait drastiquement baissé nos incidences carbone sur le plan du voyage, du quotidien, les voitures. Donc, en fait, ça allait. Finalement, on s'est rendu compte que c'était assez équilibré. Maintenant, on est dans des confinements qui sont un peu plus hybrides, où finalement on voyage, on continue de partir tous les jours, on prend notre voiture, etc. Donc, je pense que cet équilibre n'est plus. Toujours est-il qu'il faut se poser la question de différentes manières. Oui, toutes ces captations, elles ont un impact. Toute technologie numérique procède d'abord d'une entaille dans le sol, qui va demander davantage, notamment de terres rares pour celles et ceux qui achètent des nouveaux écrans. Plus on achète des écrans grands, plus on exploite les ressources naturelles de la planète. Mais pas que sur le plan des usages et sur le plan de la connexion en elle-même. Ça demande énormément d'énergie fossile pour créer de l'électricité, hein, tout simplement, qui vont alimenter les centres de stockage de données, les serveurs, où sont stockés, où sont enregistrés, où on alimente toute cette culture en ligne et pas que. Donc ça, donc évidemment, oui, il se pose la question de l'impact écologique, mais sur le plan de l'impact, moi je considère aussi l'impact intellectuel. On en a peut-être besoin aussi. En fait, finalement, il y a des choses essentielles qu'on fait au quotidien qui demandent aussi, enfin, en tout cas, où il y a une incidence carbone. Donc, oui, peut-être que passer toute sa journée en streaming pour faire, je sais pas, des activités qui seraient plus basses intellectuellement. J'entends certains jeux en ligne qui, clairement, c'est prouvé scientifiquement qu'il n'y a pas du tout
d'apport.
Il n'y a pas d'apport intellectuel ni cognitif. Enfin, rien n'est intéressant. Mais regarder un ballet, écouter un concert, je me demande si, en fait, c'est pas nécessaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Quelle serait la solution ?
C'est ça que j'allais vous dire. Est-ce que développement numérique et écologie sont antinomiques ? C'est une question que vous posez dans votre livre.
Complètement, parce que finalement, elle est là, la question. Il faut trouver des solutions plus viables. Aujourd'hui, les technologies numériques sont un gouffre énergétique. Ça, ok, c'est un fait, et il faut trouver une réponse. La réponse, on va la trouver peut-être du côté des énergies renouvelables pour alimenter les centres de stockage de données dont je vous parlais. Du coup, on diminue drastiquement la sollicitation d'énergie fossile qui pose problème, mais pas que. Il va falloir aussi, pour toutes ces nouveaux appareils électroniques qu'on achète, il va falloir peut-être trouver des filières de métaux rares, des filières de matériaux qui permettent de les construire beaucoup plus pérennes. C'est peut-être
alternatif aussi.
Et complètement. Mais aujourd'hui, on a 100 millions d'appareils électroniques qui dorment en France, qui dorment dans nos tiroirs. Peut-être qu'on pourrait réemployer ces métaux-là pour créer de nouveaux appareils. J'ai eu la chance de travailler au tout début avec le Japon, et ces derniers, en fait, pour les JO 2021, puisqu'ils ont été décalés d'une année, ont décidé d'exploiter l'or et l'argent qui sont dans les smartphones non utilisés, en fait, qui dorment dans les tiroirs des Japonais, pour fabriquer les médailles d'or et d'argent des champions olympiques. J'ai trouvé ça fabuleux. C'est quelque chose qu'on a soumis, évidemment, pour les JO français, qui auraient lieu en tout cas à Paris, et c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas vraiment en route. Mais vous voyez, c'est ce que je pose aussi comme question, c'est le manque d'humilité et l'excès d'ego que nous avons à penser que les poubelles, c'est moche. Moi, je pense qu'on est riche de nos poubelles, et ça pourrait être une vraie réponse. Voilà.
Tagama de Stefano Saletti et Piccola Banda Icona, si je prononce bien, Inès Léonard-Duzier. C'est votre choix musical, vous nous en dites quelques mots?
C'est un morceau que j'écoutais énormément quand j'étais en République démocratique du Congo pour justement nos travaux avec Digital for the Planet où on rendait visite aux associations locales qui luttent contre le travail minier des enfants qui exploitent en fait les sols pour extraire les terres rares et qui nous permettent de créer des appareils électroniques. Je l'écoutais aussi beaucoup au Ghana, là où on a la plus grande décharge de D3E, de déchets d'équipements électriques et électroniques, que finalement les pays du Nord, enfin les pays développés, je sais même pas comment on doit dire aujourd'hui, il faudrait qu'on se remette tous d'accord.
Effectivement, sur le terme adéquat.
Mais qui envoient en fait ces déchets en Afrique, ce qui est en fait complètement interdit par la Convention de Bâle, notamment. Mais comment alors on le fait tout de même? C'est parce que ces déchets ne sont pas envoyés comme des déchets, mais comme des produits de seconde main. Sauf qu'en fait, ils se retrouvent véritablement dans des décharges où vous avez des enfants et des moins jeunes qui, à l'aide de barres de fer, en fait, cassent les appareils électroniques, mettent du white spirit ou des équivalents, du feu, ce qui est extrêmement nocif d'abord pour leur santé. C'est terrible, c'est un peu dommage. Et puis aussi pour l'atmosphère. Et pour en extraire, en effet, un peu d'or qu'ils revendent à des négociants indiens. Et cet or va se retrouver dans des petits bijoux de... pas très cher, hein, qu'on trouve dans des boutiques à Paris, dans d'autres villes aussi du monde. Donc c'est un morceau que j'écoutais beaucoup, que je trouvais mélancolique et qui allait bien avec ce que je voyais et l'impuissance que je pouvais ressentir parfois, parce qu'il y a beaucoup de contradictions aussi dans ce que je raconte. Il y a les enfants, en fait, pour eux, c'est un job en or. Et finalement, essayer de les extraire de là-bas, c'est aussi les condamner. Enfin,
c'est ça qui est terrible. Et effectivement, hein, vous en parlez dans ce livre, hein, Réparer le futur, que vous faites paraître aux éditions de l'Observatoire. Il y a énormément d'exemples, vous avez beaucoup voyagé, rencontré énormément d'associations qui œuvrent sur le terrain, de ces contradictions finalement, de mettre un holà à ce travail, c'est condamner en quelque sorte toute une famille à la misère aussi. C'est ça qui est terrifiant.
Complètement. Par exemple, au Congo, les enfants payent le minerval. Bien que l'école est obligatoire, les familles doivent s'acquitter d'une petite somme, hein, c'est entre 5 et 10 francs, si je dis pas de bêtises, pour payer notamment le matériel pédagogique et le salaire des professeurs. Et quand les familles sont trop pauvres, les enfants vont à la mine pour payer ce minerval. Donc en fait, quand on dit, bon, on va les retirer de la mine là où ils meurent très souvent, hein, les chiffres de l'ONU sont effrayants, en fait, on les retire, en fait, on les déscolarise. Et quoi qu'il arrive, ils iront trouver un autre job, peut-être parfois... encore plus compliqué.
Et moins surveillé.
Et moins surveillé, tout à fait. Donc, et ça, c'est, je pense que ça a été une des plus grandes frustrations dans ma vie, de sentir mon cœur se serrer et me dire, mais oh, qu'est-ce qu'on fait, en fait?
D'où votre ONG Digital for the Planet pour, vous nous disiez, hein, faire prendre conscience de la pollution numérique et puis nous accompagner, nous, les citoyens, pour sans doute changer nos pratiques, moins consommer, pour parvenir à avoir, nous, notre impact aussi sur ces faits terribles. J'aimerais qu'on en revienne tout de même aux institutions culturelles. Vous travaillez, Inès Léonard-Duzier, avec des grands groupes, des institutions internationales. Est-ce que vous avez travaillé ou avez-vous été approché par des grandes institutions culturelles, justement, lorsqu'il est question de pollution numérique ou d'écologie numérique?
Oui. Sur le plan de la culture, alors oui, j'ai travaillé avec nombre d'instituts français étrangers, qui, notamment en Europe, qui se sont très vite intéressés à nos sujets. Donc ça m'a permis de rencontrer des artistes, notamment européens. Je parle de la Lettonie, de l'Estonie, de la Bulgarie, de l'Allemagne. On en a fait pas mal. Et donc, je suis aussi une amateur d'art, jeune amateur d'art, avec beaucoup d'humilité, mais c'est un sujet qui m'anime depuis le début. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière dans l'art.
En créant une start-up
dans le numérique. Dans l'art, tout à fait. C'était à l'époque où j'étais, comme tout le monde, complètement dans un rythme effréné.
Voilà, c'était une entreprise spécialisée dans la vente d'œuvres d'art par l'expérience immersive.
Tout à fait. On s'amusait bien.
Vous étiez avant-gardiste, finalement.
Oui, c'est vrai qu'on était aux prémices, oui, de cette technologie. Mais donc oui, je travaille beaucoup avec notamment les instituts français, mais également des artistes sur des questions. En fait, on a des débats, des conversations sur qu'est-ce qu'on fait, comment demain l'art se réinvente de façon plus écologique. Il y a eu d'ailleurs une merveilleuse exposition qui a été un petit peu coupée par le Covid, qui a été menée par la Fondation EDF, qui s'appelle Courant Vert.
Justement, on avait reçu justement le commissaire ici dans cette émission en 2000.
Merveilleuse exposition. Le commissaire était assez... Enfin, ses textes dans le magazine de l'expo sont sublimes. Et donc, je travaille aussi sur une exposition moi-même sur l'écologie numérique. numérique et le lien avec l'art, notamment l'art digital, qui aujourd'hui a le vent en poupe. Donc ce sont des questions en fait qu'on effleure, qu'on commence à aborder. Il y a beaucoup à faire.
Et effectivement, le chemin étant long, il passe aussi par l'éducation.
Tout à fait.
Bien, faire à suivre Inès Leonarduzzi. On va se quitter et puis rappeler la sortie de votre livre dans quelques jours. Réparer le futur, comment évoluer avec le numérique tout en étant respectueux du vivant. C'est aux éditions de l'Observatoire et c'est à lire, chers auditeurs. Merci beaucoup Inès.
Merci beaucoup Saskia.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend. And we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove.
With Dignity, ce titre de Sufjan Stevens, c'était le choix musical de notre invitée Inès Leonarduzzi à 8h50 sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.